17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Oui, merci de nous retrouver sur ces grands témoins, cette nouvelle saison qui commence. Et à tout seigneur, tout honneur, un grand témoin, un ami, quelqu'un qui a marqué son temps, son siècle. Et il va nous raconter un peu comment il voit à la fois l'Algérie d'aujourd'hui, l'art d'aujourd'hui, l'avenir. Il va nous parler un petit peu de son vécu, notamment. Il a rencontré les plus grands, de Nelson Mandela à Kateb Yassine, de Mouloud Memri à Tahar Djaout. Bonjour, Mezenourad.
Bonjour, ma sœur.
Merci d'être présent avec nous. Alors, on plusieurs casquettes, plusieurs chapeaux, plusieurs bérets.
Malheureusement,
c'est pas
oui.
Comment on peut dire. Vous êtes journaliste, vous êtes acteur, réalisateur, scénariste, comédien, autodidacte surtout. Vous aimez la vie, un épicurien, un amoureux de la vie. Et on va, au cours de cette émission, essayer de vous cerner, surtout de cerner les événements que vous avez traversés.
Ma sœur, si je voulais rire, je dirais que je retiendrais juste un adjectif épicurien. Oui, je suis épicurien, je le revendique, oui.
Voilà. Et donc, vous êtes de ceux qui fabriquent leur paradis sur Terre.
Hein,
on va le dire très franchement. Vous n'attendez pas de paradis par procuration. Et voilà. Donc,
un petit peu. Les choses sont... Je te raconte un peu comment ça a démarré pour moi. En 1975, j'étais...
Bébé, vous étiez bébé ?
Non, j'étais lycéen.
Vous étiez lycéen.
Je devais passer mon bac en 75. Et j'ai, comment dire, j'ai eu peur de mon père.
J'avais peur normal. De... Jusque-là, tout va bien. Les ados, tout ça, ils ont peur de leur père. Il y a l'autorité, le conflit de génération.
Je vais t'expliquer. J'avais peur de rater mon bac que je devais passer. Si je le ratais, mon père, il m'aurait tabassé, ça aurait été mort.
Il vous a arraché une oreille, il vous a arraché quelques ongles.
Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis monté à la gendarmerie, là-haut, à côté de l'Oracy, au quartier général d'armée, et j'ai demandé
à une protection.
J'ai demandé aide au service militaire. ils m'ont envoyé. Donc, ils m'ont envoyé... dans une école de sous-officiers. J'étais pas officier, moi. Ils m'ont envoyé dans une école de sous-officiers. Et par malheur, c'était en 75. Et en 75, il y a eu l'affaire du Sahara occidental.
Amgala.
Ah, oui, attends, Amgala, c'est après.
Donc, 86.
Il y a eu l'affaire du Sahara occidental. Donc, ils nous ont arrêté la formation, le FCB qu'on faisait à l'époque. Et je me suis retrouvé, Jundi, simple, soldat de deuxième catégorie. Rien du tout. J'avais aucun grade. Même pas la patte de mouche là de caporal. J'avais rien. Et ils m'ont envoyé à Arzeux. Et Arzeux, au bout de deux mois.
Arzeux, c'est à l'ouest de l'Algérie, hein.
À côté d'Oran,
À côté d'Oran.
Au bout de deux mois de formation, ils nous ont mis dans un avion à Antonov. Ils nous ont emmenés à Biskra. Et de Biskra, Tindouf. Et je me suis retrouvé dans la zone de stationnement pendant deux ans.
À manger du sable.
Hein ?
À manger du sable à la petite cuillère.
À manger du sable à la petite cuillère.
On raconte qu'on vous allumait des incendies et vous passiez la journée ou la nuit à les éteindre.
Par exemple, je vais t'expliquer. On arrivait sur une zone de stationnement à l'extérieur de Tindouf, face à la frontière marocaine. Et ils nous demandaient de creuser des tranchées. Pour qu'on se bagarre. Moi, j'étais dans l'artilleur. J'étais avec les canons 85. Et on dormait... On creusait des casemates. On dormait soit dans les casemates, soit sur les camions militaires. On dormait sur les caisses d'obus. Ou alors, on faisait des maisons avec les caisses d'obus. Et on allumait, nos bougies, on les collait aux caisses d'obus. Ça extubait la bougie. Alors, et ensuite, le matin, on sortait de notre camp, on allait chercher du bois. Il n'y a que des acacias dans le désert. On allait chercher du bois, on coupait le bois, et puis on allumait des grands feux. Oui, pardon, on allumait des grands feux, et on essayait de les entretenir 24 sur 24, tu vois. Alors, on nous livrait, on leur amenait quelque chose à bouffer, tu vois, de temps en temps. Il n'y avait pas grand chose à bouffer. Hein. Et l'eau, ils nous l'a livrée par citerne. On avait une citerne. Si on devait se doucher, c'était tous les trois mois à la douche. Hein. Et on se douchait l'un derrière l'autre. Tu vois,
alors là, vous aviez votre diplôme qui était en train de se constituer.
J'ai eu le bac, j'ai eu le bac à l'armée, je l'ai eu à l'armée.
Vous avez en même temps le diplôme, en même temps un savoir-faire, en même temps, je veux dire, vous avez tout appris à ce moment-là.
J'ai tout appris à l'armée. Ce qui m'a flingué un peu dans cette expérience militaire, est que déjà, il faudrait que les Algériens aujourd'hui le sachent. On nous a menti. Parce que, quand il y a eu, par exemple, l'histoire d'Amgala, les Algériens, c'est ma brigade, le 34e brigade d'infanterie mobile, qui a été là-bas, Amgala. Nous avons été trahis par l'armée marocaine. Ils sont passés, les Algériens étaient là-bas pour ramener les Sahraouis, pour ramener les réfugiés, tu vois. Les Marocains sont passés en un grand convoi et nous, les copains, on les surveillait. On a vu qu'ils sont partis, on s'est dit, bon, ça va, ils sont partis, c'est bon. Et tu vois pas que dans la soirée, ils sont revenus, ils ont été se garer, ils sont revenus, ils ont attaqué le camp. Donc il y a eu beaucoup de morts.
Il y a eu beaucoup de morts à Amgala.
Ah ouais, il y a eu beaucoup de morts. Et après, il y a eu Amgala 2. Il y a eu Amgala 2. C'est Boumdine qui a décidé. Il a envoyé les parachutistes de Skikda. Ils ont égorgé tout un camp de Marocains. Voilà ce qui s'est passé. Mais tout ça.
C'était l'époque où des gens comme vous.
75, 76.
C'était l'époque où des gens comme vous revenaient au village dans un cercueil.
Absolument.
On interdisait aux parents. Et d'ouvrir
tu pouvais
cercueil.
Pas ouvrir le cercueil, il y avait des pierres à l'intérieur.
On leur interdisait d'ouvrir le cercueil.
Voilà, par exemple, je te dis, il y a un puits dans cette zone de stationnement-là, à côté de Tindouf, qui s'appelle Hassi Lounis. Ben, Lounis, c'est un lieutenant de Azazga qui a été tué dans la bataille d'Amgala. Il y a un puits là-bas qui porte son nom, tu vois. Mais ce genre de choses. Je veux dire, moi, ce qui m'a gêné à l'époque. C'est pourquoi dans la presse officielle algérienne, à l'époque il n'y avait pas de presse libre comme aujourd'hui, enfin indépendante ou machin, c'était le Moudjahed, révolution africaine, machin, l'actualité, c'est la presse publique quoi. Eh ben, toute la presse publique, le Moudjahed à la une, des soldats algériens qui accompagnaient un convoi de médicaments à destination des Sahraouis a été attaqué par l'armée marocaine. C'est pas vrai. Nous étions en guerre. Il n'a jamais voulu le dire. Parce que nous étions de ce côté-là. Nous étions... À l'époque, il n'y avait pas de généraux. Il y avait les colonels qui venaient nous voir. Je me souviens du colonel Hiaoui qui est venu et qui nous a fait un discours guerrier pour nous dire « Vous êtes des patriotes, vous allez... Il y a un pays qui nous agresse, soyez des hommes, soyez dignes des martyrs de 54-62, etc. Si les Marocains vous attaquent, il faut les tuer. Voilà le discours qu'on nous tenait à nous, militaires.
Donc, en fait, Mézian Ourad, vous venez de nous le raconter, tu viens de nous raconter, finalement, un acte de naissance. Un acte de naissance dans la douleur. D'un jeune algérien,
d'un militant,
et qui est découvert, bien sûr, plein de choses.
Attends, non, je termine juste par une petite anecdote. Quand, en 76, quand la situation s'est exacerbée, et qu'on allait vers la guerre, ils nous ont enlevé nos papiers, nos photos, tout ce qu'on avait sur nous. Et nous ont donné des gondouras. C'était marqué réserve marocaine à Rabat. Ils les ont arrachés. Des gondouras comme ça, des chèches et des claquettes. Il fallait pas que tu aies quelque chose qui dise que tu es algérien. Et avec ça, ils nous ont envoyés à la guerre. Et après, ils montaient aux gens. C'est pour cela, c'est comme ça que je fais la jonction entre cette époque que j'ai vécue très mal et ma décision d'émigrer. Je suis venu en France juste après mon service militaire. Je suis venu en 77, je suis sorti. J'ai fait l'école de professeur là-bas, à l'UNED. 78, je suis venu en vacances, je suis resté ici en France.
On se retrouve dans un instant.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours notre grand témoin, Mézien Ourad, qui, Mézien, tu viens de nous raconter cette histoire incroyable, bien sûr, qui a fait que ça t'a forgé, ça t'a renforcé dans pas mal d'idées. Et ça t'a permis d'avoir des armes pour le futur. Et tu t'es engagé, tu as voulu être professeur, tu as voulu être enseignant, tu es devenu journaliste. Et pour toi, l'enseignement, c'était pour inculquer un savoir, inculquer de la culture, parce que tu avais envie de transmettre quelque chose.
Je crois, Nasser, quand j'ai quitté l'armée, donc je suis venu en France en 78, je suis resté 2 ans ici. Je voulais faire des études ici. Finalement, ça n'a pas marché. Je suis retourné en Algérie. Et la première chose qui m'est venue à l'esprit, je me suis dit, écoute, toute mon expérience là que j'ai, je veux la mettre au service des jeunes. Je voulais avoir des enfants, leur apprendre des choses. Tu vois. Donc, j'étais pas encore marié, j'avais pas encore d'enfants, mais je voulais apprendre aux enfants de mon quartier à lire, à travailler, à parler des langues, à essayer de trouver un métier, etc. Donc je suis rentré là-dedans. Alors j'ai fait des études pour être prof, et j'avais en tête les profs qui m'ont eu, moi, quand j'étais lycéen. C'était des Français à l'époque, en général, tous des Français, des Corses, des machins de ça, des conférences techniques, tu vois, qui m'ont appris la poésie, qui m'ont appris Brel, qui m'ont appris Brassens, qui m'ont appris... je sais pas moi, Moustaki, qui m'ont appelé la grammaire, la syntaxe, le. Alors je me suis dit, tout ce qu'on m'a transmis, il faut que je le transmette. Et voilà. Donc,
et tu as choisi ensuite la plume. Tu as choisi le métier de journaliste. Tu as.
Ouais.
Alors. Tu es un ancien de l'Algérie Actualité.
Je t'explique pourquoi.
Le soir d'Algérie.
Attends, pardon. Je t'explique pourquoi. Parce que quand j'étais prof. Je me suis rendu compte que je crois que la cause était perdue. Puis, je me retrouvais dans la salle des profs, les enseignants, là. Au lieu de préparer leur cours, qu'ils m'ont donné une demi-heure après, ils parlaient du prix du mouton. Il faut aller acheter le mouton en haut de la laye, il faut aller acheter la blida, là-bas ça coûte moins cher. Là. Alors je me suis dit, qu'est-ce que je suis en train de faire là-dedans? Donc j'ai quitté. Et j'ai eu la chance, à l'époque, comme j'étais, je suis fondateur, membre fondateur du groupe Debza, le théâtre, avec Ed Biassin, donc comme parrain. Et donc j'étais avec ma troupe Debza. Et ça m'a donné le courage de changer un peu les choses. Donc je me suis dit, bon, je quitte l'enseignement. Et regarde le hasard, ce qu'il fait. À l'époque, il y avait... parce que nous avons été aussi... aussi des leaders du printemps berbère en 80.
Et donc, il y avait... Pour ça, en 80, tu étais...
Étudiant.
Étudiant.
Ouais.
Et le printemps 80, t'as pris de plein fouet.
Ouais, attends. Je t'explique. Là, il y a... Quand on était dans le printemps 80, quand nous étions des leaders, donc il y avait des milliers de personnes qui venaient nous voir à la fac et qui voulaient nous approcher parce que nous étions des leaders. Eh ben, à cette occasion-là, j'avais rencontré par exemple Ben Mohamed, Tar Chaout, Saïd Khalil était avec nous. Tahar Djaoud est venu comme spectateur, tu vois. Mais c'est Tahar Djaoud qui m'a... Je lui ai demandé.
Parle-nous un peu de Tahar Djaoud.
Oui, attends. Tahar, c'était mon voisin de palier à Bainem. Mon voisin de palier, on vivait ensemble. Je te promets qu'une semaine avant sa mort, j'étais là-bas. Quand on a créé Rupture ensemble. Hein. Je n'ai pas écrit dans Rupture, mais je l'ai créé, je l'ai fondé avec le journal Rupture. Alors, on dormait à Bainem, moi dans mon logement, lui dans le sien. Tous les matins, Tahar venait prendre son café avec moi et on prenait la voiture, la R9, là, dans laquelle il a été assassiné. Et on travaillait dans le même journal. Tous les matins, on prenait la même voiture. Un jour, je me suis réveillé un vendredi, je lui dis, Tahar, je ne peux pas dégoûter Alger, il faut que je rentre à Paris. Vendredi. Il était en train d'écrire Le Dernier Été de la Raison, son dernier roman, inachevé, là. Il était en train de l'écrire à moi. Tous les matins, il me montrait... Tu sais, il écrit sur des bouts de papier, tu vois. Donc je lisais au fur et à mesure, tu vois. Et puis je rentre à Paris vendredi. La semaine d'après, j'appelle mon frère. Akli. Et ça, Akli, comment tu vas? Il n'a comme zéro, on vient de tirer sur Djaoud. Je suis monté à Roissy, je suis descendu à Alger. On s'est retrouvé pendant une semaine à l'hôpital de Bainem.
On lui a tiré dessus. Le gars est revenu lui tirer dessus dans la voiture et en fait, Tahar est mort à l'hôpital.
Il a reçu deux balles. Ouais. Non, ils l'ont maintenu sous respirateur parce qu'il y avait l'Aïd. Les médecins nous ont dit, ça y est, il est mort. Et donc, le lendemain de l'Aïd, ils l'ont débranché. Et moi, j'étais... Ma maison était ouverte pour tous les gens qui venaient, tu vois. Ils dormaient tous chez moi ou chez Tahar.
Alors, on a dit beaucoup de choses sur Tahar Djaoud, mais moi, j'aimerais bien que toi, tu nous dises qu'est-ce que tu as retenu. On a toujours cette phrase, si parle et meurt, etc. Enfin, on connaît cette phrase. Mais toi, qu'est-ce que tu retiens de Tahar?
Attends. D'abord, lui-même, cette phrase-là, ces vers-là. Toi, si tu parles, tu meurs. Si tu dis, tu meurs. Alors, bien heureux, c'est pas... Oui, c'est pas... Lui-même, il le dit que c'est pas lui, c'est un Syrien qui a écrit ça. Mais il la reprend à son compte, il la revendique. Eh ben, Tahar, c'était... Tu sais, Amassa, il était... Je crois que tu l'as connu quand même, ici.
Oui, moi j'ai mon... Tahar, c'était la douceur même.
Le mot est
trop faible, c'est quelqu'un d'exquis. C'est-à-dire que c'était une prestance, une éducation, absolument, une gentillesse.
Est-ce qu'un jour...
Bon, mais moi, j'aimerais bien que toi, tu me dises...
Est-ce qu'un jour tu as vu Tahar se mettre en colère?
Jamais.
Ou avoir un éclat de bois ou un truc comme ça. Quand moi, je foutais le bordel...
J'ai jamais vu Rachid Mimouni en colère. J'ai jamais vu Tahar Djaoud en colère.
Absolument.
Kateb, il n'était pas encore, sauf quand il avait bu un bon coup de rage.
Mais c'est pas en colère.
C'est grandes personnes.
Même Rachid Mimouni un jour.
Ou Mouhia, j'ai jamais vu en colère.
Ah non, Mouhia jamais. Ouais. Rachid Mimouni, par exemple, un jour, on était à l'ambassade de France, au service culturel, et nous avait invité. Il y avait avec nous, comment il s'appelle, le caricaturiste là, qui a été assassiné. Volinsky. C'était un hommage à Volinsky, tu vois, à l'ambassade de France à Alger. Et donc, on est resté, moi, Rachid Mimouni, c'est Hamid Agoumi, les derniers. On était en train de vider le dernier verre de whisky, tu vois. Et Rachid Mimouni m'accompagne. Lui, il habite Boumerdès, moi, j'habitais Ténia, à Ménerville. Il roulait à 20 à l'heure. 20 à l'heure. Rachid Mimouni, il ne peut pas dépasser 20 à l'heure. Il roule tout doucement, il prend la droite, il roule tout doucement. Je lui dis, attends, Rachid, on va arriver dans combien de temps, là? Et pendant tout le trajet, il m'a dit, vous êtes des ânes, les journalistes de merde, là. Il m'a dit, tu sais, Mziane, je te jure que tu as plus de talent que moi. Il m'a dit, mais moi, je me lève le matin, je me mets au bureau, je travaille 2 heures, j'écris. Et toi, tu te lèves, tu vas aller boire un coup et tu n'écris pas.
Rachid, c'était la modestie incarnée.
Ah, ouais.
C'est-à-dire que Rachid Mouni, ouais, il avait le mot, il avait le mot juste.
Et Tarjaout, exactement la même chose.
Tarjaout, ils ont une modestie incroyable.
Ben, tu sais, c'est les meilleurs qui sont toujours modestes. C'est les meilleurs qui sont modestes. Tarjaout n'a jamais prétendu être un grand. Rien. Il n'attendait pas de prix, de machin. Il écrivait, il avait son truc. Tu sais, il avait un contrat avec le Seuil. 5 livres, il devait rendre 5 livres. Il les a quasiment tous rendus avant de mourir. Les gens qui l'ont tué, c'est des ânes. Tu tues un bonhomme comme ça.
Alors, mes Edouard, on avance un petit peu. Donc, ouais, journaliste, le soir d'Algérie, rupture, la dépêche de Kabylie. Donc, le journaliste qui est engagé. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de l'actualité à ce moment-là. Le printemps 80, octobre 88, le printemps noir. Enfin, toute cette Algérie qui se soulève, qui se réveille. Et j'aimerais qu'on en parle dans un instant. À tout de suite.
D'accord. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours avec mes Anourad qui nous livre ces tranches de sa vie.
Ouais.
Et en nous livrant ces tranches de vie, Méziane, tu peux pas savoir quel plaisir tu nous fais et tu
Merci.
Nous délivres, nous, de certaines choses.
Merci.
Méziane, tu as traversé le temps. Cette Algérie qui était choyée, qui est aimée, qui devait devenir le Brésil de l'Afrique du Nord, panafricaine, la liberté, la démocratie, la République de la plateforme de la Soumam, qui devait exploser tel un arc-en-ciel, s'est refermée sur elle-même.
Ouais.
De la répression, l'armée algérienne qui tire sur sa jeunesse pour la première fois en 88 et qui tue plus de 500 personnes. Ensuite, la décennie sanglante, 300 000 morts, 400 000 morts. 500 000. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette Algérie?
C'est terrible. C'est terrible ce que tu rappelles un peu brièvement comment l'Algérie a été décolorée. Parce que
qu'est-ce qui s'est passé?
Attends, je vais t'expliquer. Ouais. Je vais t'expliquer. Nous sommes des enfants de la guerre. Moi, je suis né en 1955, donc j'ai vécu la guerre. Mon village a été rasé. Et je me suis retrouvé sur le dos de ma mère, exilé de village en village, jusqu'à l'indépendance. J'arrive à Alger. Et je vais apprendre. Déjà, je vais apprendre qu'il y a une autre langue, l'arabe. Je connaissais pas l'arabe. Moi, je connaissais que le kabyle. Donc j'ai été obligé d'apprendre l'arabe. Heureusement que je savais parler français. Donc ça m'a sauvé un peu le français. La langue française m'a sauvé. Ensuite, chemin faisant, dès que je suis rentré au collège, si tu te souviens, mai 68 a décoloré sur un peu toute la planète, quoi. Donc même chez nous, le mouvement de l'UNEA, l'Union des étudiants algériens, a commencé à faire du bruit. Il y avait des luttes en Algérie, des luttes sérieuses, portées souvent par les militants communistes et à côté les militants berbéristes. Donc très tôt, quand j'étais au collège déjà, à partir de la classe de 6e, j'ai été emmené à comprendre les enjeux qu'il y avait au niveau politique, tu vois. Et puis, imagine-toi que jusqu'au milieu des années 70, j'ai cru au projet FLN, parce que pour moi, le FLN, c'était un parti nationaliste, machin.
C'était l'émancipation d'un peuple, l'émancipation des femmes.
J'ai cru.
C'était la liberté. C'était
j'ai cru à ce projet-là. Et puis, on s'est rendu compte très vite que c'était du pipeau.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Il y a eu... quand tu les vois... D'abord, il n'y avait pas d'élection. Nous étions dans un pays dictatorial. Les élections ont commencé en 76 avec la charte nationale et la constitution, 76. Et ensuite, quand ils ont commencé à organiser des élections, on les a vus, nous, dans les quartiers, trafiqués. Ils se sont tous servis. Et là, on a compris que c'était pas bon. Et donc, chacun est parti dans son camp. Moi, depuis cette période, j'ai été vers l'extrême gauche, plutôt vers les anarchistes. Et donc, j'ai commencé à me bagarrer contre ces gens-là. Ensuite, donc, on arrive... voilà, je vais te dire, par exemple, j'ai adhéré au FLN en 74. Et je prends la parole dans une casma FLN et je dis, excusez-moi, je vais m'adresser à vous en français parce que je ne maîtrise pas très bien l'arabe. Bon, je le maîtrisais, mais je ne voulais pas, tu vois. Ils sont tous levés. Ils m'ont dit, tu parles en arabe, sinon tu fous le camp. Alors là, j'ai compris que...
ces années-là, c'était les années où on pouvait aller en prison. Absolument. On avait un alphabet tifinagh dans la poche.
Ah oui, oui. Non, c'est... Moi, je connais un bonhomme. Il avait un t-shirt à la braderie au champ de manœuvre. Une braderie à l'époque, toute l'année. Ils vendaient des machins. Il y avait un bonhomme qui portait un t-shirt noir. C'était marqué l'Afrique aux Africains, Massinissa.
Mais Mourad, on arrive bientôt vers la fin de l'émission.
Il est parti
moi, ce que je voudrais savoir, c'est ce pays qui n'a jamais été en paix et qui a toujours été secoué par des tremblements de terre, par des événements considérables,
depuis des millénaires, depuis des siècles,
qui fait une révolution. Qui doit restituer le pays, la terre, à son peuple. Il se passe le printemps 80, le printemps berbère, il se passe les émeutes d'octobre 88, il se passe la décennie sanglante, le printemps... Et le pouvoir reste le même. Il n'y a rien qui change. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le peuple algérien n'est pas capable de... Qu'est-ce qui se passe?
Non, ça. Je voudrais juste, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, je vais te dire une chose. Déjà, le printemps berbère, pourquoi? Parce que nous avons été piétinés pendant 40 ans. À l'époque, en 80, nous étions piétinés depuis 40 ans. On a nié notre langue, on a nié notre identité, on a nié les rues. Il a fallu que, quand même, des jeunes comme moi, beaucoup d'autres, nous sommes des milliers, nous nous sommes révoltés et nous avons réussi à arracher quand même quelques victoires jusqu'à aujourd'hui. Ensuite, il y a eu cette révolte d'octobre 88 que personne
ne voyait venir. Personne l'a vu venir.
Personne l'a vu venir et personne n'arrive à l'expliquer jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que c'était spontané? Est-ce que c'était pas spontané? Est-ce que voilà? Bon, ça a changé aussi des choses puisque ça a ramené le multipartisme et ça a ramené les journaux dits indépendants. Tu vois, un peu de liberté d'expression. Et concomitamment, il y a l'émergence de l'islamisme, de l'islam politique, et donc, juste après, du terrorisme, il y a eu des massacres, et jusqu'à aujourd'hui, on se pose encore la question, est-ce que c'est vraiment ces islamistes-là qui ont massacré tous les Algériens? Est-ce que l'armée n'a rien à voir là-dedans? Est-ce que moi je pense que les islamistes existent parce que je les ai vus grandir dans mes quartiers, dans mon quartier à Wissandé.
Bah quand ça a commencé par exemple avec Mustapha Bouali, quand ils ont trucidé Kamel Hamza en pleine université avec un coup de sabre
en 82,
et qu'ils ont commencé à infiltrer tous les campus étudiants, etc.
Absolument.
C'était pas l'armée.
Mais nous étions confrontés à eux, nous, bien sûr. Moi je me dis toujours que les islamistes existent.
Ah, c'est pas l'armée.
Ils existent. Attends, même Abdallah, celui qui a détourné l'Airbus qu'on les a flingués à Marseille, là, avec Pasqua. Ah ben, ce Abdallah-là, il habitait en face de chez moi.
Alors, je veux dire que la décennie sanglante, ensuite là, plus récemment, le Hirak, la révolution de la Selmia, et aujourd'hui... qu'est-ce qui se passe? On a eu un voyage là récemment.
S'il te plaît, il ne faut pas qu'on perde de vue une chose. Moi, je dis, le Hirak, pour nous tous, ça a été une fenêtre d'espoir incroyable, tu vois. C'était magnifique. Pendant deux ans, les gens étaient là.
Non, mais c'était pas un peu utopiste. La révolution du sourire.
Ouais, la révolution du sourire.
C'est gentil.
Et puis après,
bah, c'est jamais dans le sourire.
Après, ça a été tempéré par le Covid. Mais je crois que le Hirak ne reviendra pas comme mouvement, comme il l'a été par le passé. Mais je suis certain d'une chose en ensemble. Il y a des hordes de jeunes Algériens créatifs qui sont dans les arts, qui travaillent, qui chantent, qui jouent de la musique, qui peignent, qui font du théâtre, qui font de... Tu sais, ils travaillent la société de l'intérieur, c'est incroyable.
Ce que tu veux dire, c'est que c'est l'espoir, ça.
Ah oui, absolument.
Ça, c'est l'espoir de l'Algérie de demain.
Absolument, moi je suis certain.
La création, la culture.
Ouais,
c'est ça.
Par contre, si tu veux que ce monde-là qui bouge de l'intérieur, si tu veux qu'il nous emmène quelque part, il faudra que l'équipe nationale de football n'aille plus aux Coupes du Monde, n'aille plus rien. Parce que sinon, c'est le football, il va nous tuer.
C'est toujours...
One, two, three, before Algérie, salam alaikum. Voilà, c'est un pas.
Mais Zanourad, merci d'être venu. On a encore 2-3 minutes, donc on peut conclure très tranquillement. Aujourd'hui, Mes Anourad, l'actualité, c'est du théâtre, c'est bientôt un rôle dans une fiction au cinéma.
Alors,
Mes Anourad continue son petit chemin.
Alors, je vais te dire les deux projets qu'il y a maintenant là. Je suis en train de travailler avec Abdelzak Larbi-Sherif, le réalisateur, le journaliste de France 24. On est en train d'essayer de concevoir un 26 minutes ou un 52 minutes sur le groupe Amzi. Un documentaire. Et Abderzak a déposé un dossier. Peut-être qu'il va être accepté par le Centre National du Cinéma ici pour faire une fiction sur le 17 octobre 61. Donc sur le 17 octobre, sur la manifestation du 17 octobre. Et Abderzak m'a demandé de jouer le premier rôle dans ce film. Donc voilà, c'est les deux projets que j'attends.
C'est magnifique. Ça veut dire que plus que jamais, Mes Anourad est en forme et c'est que du bonheur. Merci Mes Anourad d'être venu et on va se revoir très bientôt parce qu'on est un peu frustrés, on reste un peu sur notre faim.
Ouais. Merci Nasser et merci à toutes les équipes de BRF.
On essaiera aussi de prendre peut-être d'autres volets à la fois de l'actualité. Peut-être pour essayer de se refaire une petite émission. Merci beaucoup et à très bientôt.
À très bientôt. Merci, Massa.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.